Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, bienvenue à bord du cargo de Radio Caroline pour une traversée agitée, houleuse mais captivante, celle de l'élaboration de la vie, des vies, devrais-je dire, étonnante, d'un livre qui a fait sensation il y a 40 ans, en 1984, et qui aurait fait scandale s'il était paru aujourd'hui, L'amant de Marguerite Duras. C'est aussi une traversée à travers l'histoire faite de combats et d'engagement de la maison qu'il a publiée, les éditions de Minuit. Le 12 novembre 1984, il y a quatre décennies, Marguerite Duras recevait le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires français, pour son 21e roman « L'amant ». Un livre qui, aujourd'hui, en ce nouveau monde post-MeToo, pourrait, si l'on y prenait garde, être fustigé, peut-être même banni. Et pour cause, il raconte en Indochine, dans les années 30, la passion charnelle, sexuelle, entre une jeune adolescente française de 15 ans et un homme chinois de 12 ans, son aîné. Un livre dans lequel on trouve cette phrase « Elle a consenti à venir dès qu'il le lui a demandé la veille au soir ». Consenti. Un consentement qui, bien sûr, 40 ans plus tard, après le livre de Vanessa Springora et bien des affaires judiciaires, interroge, pourrait être discuté, contesté. Mais ce roman, très biographique et plein d'amour en réalité, biographique car directement inspiré par l'expérience vécue en Indochine par Marguerite Duras, ce livre paru en 1984, a rencontré un énorme succès avant même d'être récompensé. Et pour célébrer l'anniversaire de sa parution et tout de même en resituer le contexte, les éditions de Minuit le republient aujourd'hui dans une version augmentée d'entretien accordé par Marguerite Duras peu avant ce prix, mais alors que le livre, je le disais, connaît déjà un énorme succès. Entretien donné au journal Libération ou encore au Nouvel Observateur, lequel magazine paraît la veille d'un numéro exceptionnel de l'émission Apostrophe de Bernard Pivot, entièrement consacré à Marguerite Duras. Ça se passe le 28 septembre 1984, devant 3 millions de téléspectateurs.
Bonsoir à tous. Au cinéma, Hiroshima, mon amour, India Song, au théâtre, les viaducs de la Seine-et-Oise, Savannah Bay, en librairie, un barrage contre le Pacifique, Moderato Cantabile, le ravissement de l'Olvestein, Le Vice-Consul, ce sont là, dans une œuvre abondante et très diverse, quelques-uns des titres qui ont rendu célèbre Marguerite Duras. Et voilà que cet auteur singulier, un peu mystérieux, inclassable, certains par commodité l'ont rangé sous la bannière un peu floue de la modernité, voilà que cet auteur obtient un succès populaire inouï avec son dernier livre, L'Amant. Eh bien, c'est la preuve que Marguerite Duras sait encore nous surprendre et sa présence ici ce soir, en direct à Apostrophe, c'est encore une bonne surprise. Marguerite Duras. Alors, venons à L'Amant.
Oui.
L'Amant. Nous sommes à Saïgon, entre les deux guerres, dans les années 20. Vous avez 15 ans et demi et vous êtes sur un bac qui traverse le fleuve, c'est-à-dire le Mékong. Et vous êtes drôlement attifé, quand même. Vous voulez pas... Vous êtes attifé comment? Racontez-nous.
J'ai un chapeau d'homme.
Oui.
Un feutre.
Oui, un feutre...
Rose.
Couleur bois de rose, oui. Au large ruban noir.
Oui.
Et au pied?
J'ai eu ce chapeau-là. Vraiment, je l'ai eu. Au pied, j'ai des laméors, des souliers de, pour danser.
Oui, c'est vraiment sur le bac, évidemment, vous devez faire... on doit vous remarquer. Aujourd'hui, on vous remarquerait à peine, parce que c'est une mode qui se porte couramment chez les jeunes filles. Hein.
Oui, hein, oui, c'est vrai.
Aujourd'hui, on ne vous remarquerait pas. Mais à cette époque, on vous remarquerait. Et d'ailleurs, quelqu'un vous a remarqué qui est dans une grande limousine noire.
Oui.
Et vos regards se croisent. Et on peut dire... Est-ce qu'on peut dire que cet échange de regards va changer votre vie?
Oui.
Alors, qui vous regarde?
C'est un Chinois. Très riche.
Mais vous ne le savez pas qu'il est riche à ce moment-là.
Si, je le sais à l'automobile.
Ouais.
Et puis au chauffeur. Je sais des choses comme ça.
Il a 12 ans de plus que vous.
J'ai 15 ans, il a 27 ans, oui, ouais. C'est ça.
Et très vite, vous allez dans sa garçonnière.
Oui, très vite. Ouais. Oui, très vite.
Et là, il vous aime, il est fou d'amour pour vous.
Oui, c'est normal aussi, une petite comme ça. Toute petite.
Et vous ne l'aimez pas?
Je ne sais pas. Je ne peux pas dire ça.
Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre vous, en dehors du plaisir?
Vous savez, quand les choses ne sont pas dites, elles n'ont pas été dites, là, de ma part, elles ont été pensées clairement après, pendant le retour, sur le paquebot qui me ramenait en France. Vous vous souvenez de ça? Quand un jeune homme s'est tué, il s'est jeté à l'eau, et j'étais en pleine nuit, le bateau s'est arrêté, mais trop tard. Le corps a été perdu. Et cette séparation du corps du jeune homme m'a rendu à cette évidence que je l'avais aimé. C'est la séparation avec le corps du jeune homme mort qui m'a rendu à cette évidence-là. Je l'ai sans doute aimé.
Mais en montant dans sa voiture et en allant dans sa garçonnière, vous saviez que vous avez créé à ce moment-là un double scandale. Vous avez un scandale, le vôtre et puis le sien.
Non, j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé qu'il fallait y aller. Je vivais avec deux garçons qui étaient très en avance sur moi de ce point de vue. Et je pense que j'ai voulu rejoindre mes frères.
Oui, mais vous commettez quand même une transgression extraordinaire. Parce que là, vous avez 15 ans et demi, donc vous êtes mineur.
À cette époque-là,
et oui, vous devenez la maîtresse d'un Chinois. Alors vraiment, c'est une double provocation.
Oui.
Et cette provocation est très mal reçue par votre famille.
Vous dites maîtresse. Oui, je sais pas.
Pas l'amant, une maîtresse de l'autre côté.
Oui, avant tout, c'était ça. Oui. C'était la jouissance. C'était très, très, très fort. C'était pour toute la vie.
Le prix Goncourt, Marguerite Duras aurait pu l'avoir en 1950 avec son roman Un barrage contre le Pacifique, récit baignant dans l'Indochine du vice et de la dérive, dénonçant la malhonnêteté des promesses de la société coloniale aux rapports sociaux toujours figés. Mais au final, il ne récoltera qu'une voix à cause, a toujours pensé Marguerite Duras, de son engagement communiste. Alors qu'à la même époque, le Parti communiste français, très orthodoxe en ce temps-là, venait de l'exclure pour, je cite, tentative de sabotage du parti par l'usage de l'insulte, de la calomnie, fréquentation de trotskistes et fréquentation de boîtes de nuit. Des rumeurs seront même propagées par certains membres du parti qui traiteront l'écrivaine d'esprit politique pervers, de traînée et de décadente petite bourgeoise. L'engagement de Marguerite Duras ne faiblira pourtant pas, et ce pour de nombreuses autres causes, d'ailleurs le féminisme, la lutte contre la guerre d'Algérie et le droit à l'avortement. Mais revenons en 1984, 34 ans plus tard, à ce Goncourt enfin décroché pour l'amant. Étonnant destin que ce livre, comme on le raconte dans une des annexes de sa réédition. Écoutez plutôt. Peu après l'ouverture, en février 1983, d'une rétrospective des films de Duras à Bruxelles, son fils, Jean Mascolo, la convainc de réaliser un livre illustré réunissant des photographies de famille en Indochine et des photographies de ses pièces et de ses films. Pour les accompagner, Marguerite Duras signera un texte qui doit courir tout au long de l'album. Tandis que Jean Mascolo rassemble ses photos de plateau, il était photographe, que son ami Hervé Lemasson écrit une présentation pour l'éditeur et sollicite les services d'agence de photo parisienne, elle se met au travail et rédige un premier manuscrit de 20 pages, puis une nouvelle version plus courte d'une dizaine de pages qu'elle désigne sous le titre « La photographie absolue ». Il y aura d'autres titres envisagés, « La photo absolue » ou encore « L'image absolue ». En février 1984, lit-on encore dans cette note de cette réédition, le projet prend brusquement une autre direction. Le texte, désormais dicté à Yann Andrea, le compagnon de Marguerite Duras, et dactylographié par celui-ci, s'étoffe considérablement et atteint près de 100 pages. Il a pris une telle ampleur que ses proches encouragent Duras à abandonner l'idée de l'album pour poursuivre la rédaction de ce qui deviendra l'amant. 3 mois d'écriture intense et de correction passent et le 16 mai 1984, elle remet à Irène Lindon, fille de Jérôme Lindon, le directeur des éditions de Minuit, un manuscrit abouti. Le lendemain, Jérôme Lindon adresse une lettre à Marguerite Duras. « Marguerite, Irène a laissé hier soir sur mon bureau votre manuscrit que je viens de lire d'une traite. Je n'ai pas de mots pour vous dire combien je trouve ça magnifique. bouleversant. Vous n'avez jamais rien écrit de plus grand ni de plus secret. C'est un mur infranchissable et en même temps un abîme où l'on se noie. Je pleurerai en le lisant de bonheur. Comment vous dire cela ? Je vous embrasse, je vous embrasse, je vous embrasse, Jérôme. Le 12 novembre 1984, chez Drouan, François Nourricier annonce que le prix Goncourt est attribué à l'amant. Marguerite Duras l'apprend alors qu'elle est à Trouville, chez elle. Un prix qui gonfle encore la notoriété de la romancière, désormais reconnue dans la rue. Le livre, dont les ventes continuent de progresser, connaîtra également un retentissement mondial. Traduit en anglais au début de l'année 1985, il devient un best-seller aux États-Unis et se hisse en juillet 1985 au 9e rang du classement du New York Times, recensant les livres de fiction les plus vendus. Pour souligner l'importance des libraires indépendants dans le succès du livre, lis-je encore, les éditions de Minuit réserveront une pleine page de publicité dans Le Monde du 26 avril 1985. On y voit une courbe qui monte en flèche, annonçant 18 tirages successifs, 750 000 exemplaires vendus, la répartition des ventes entre réseaux de libraires et chaînes et les 25 traductions en cours. Duras encadrera cette publicité et l'accrochera dans son appartement des Roches Noires à Trouville. Quelques années plus tard, en 1992, sortira au cinéma une adaptation du roman long-métrage signé Jean-Jacques Haneau. Il n'avait pas lu le livre à sa sortie, c'est le producteur Claude Berry qui lui en parlera. Mais dans un premier temps, Haneau hésite. « Je n'ai pas envie de me jeter dans une entreprise qui me vaudra nécessairement les sarcasmes des dévots », dira-t-il. « Je viens de vivre une relation exemplaire avec Umberto Eco, autre auteur culte, dont il a adapté Le nom de la rose. Notre rapport a été tellement idéal que j'hésite à m'aventurer dans une autre expérience avec un auteur contemporain. » Berry propose dès lors cette idée de film à d'autres réalisateurs avant que Jean-Jacques Haneau n'accepte finalement de tenter l'aventure, hanté malgré tout par cette jeune fille, par cette histoire. Il y travaillera avec son scénariste Gérard Braque avant quelques séances lors du développement en compagnie de Marguerite Duras. Des séances qui s'avéreront compliquées, la romancière supportant assez mal qu'il en parle et l'envisage comme son film, alors qu'il s'agit de l'adaptation de son roman à elle. C'est que Jean-Jacques Haneau, malgré le respect qu'il porte à l'écrivaine, souhaite que le film reflète son propre style. « Pour le mener à bien, je n'ai pas le choix, je ne peux le faire qu'à ma main, en assurant les risques de ma liberté. Je ne sais pas diriger en position de prosternation, je ne sais pas non plus faire à la manière d'eux. »
Un film, il faut le faire tout seul. Un roman, il faut l'écrire tout seul. Moi, j'ai pris le roman qu'elle avait écrit tout seul et puis j'ai voulu faire mon film tout seul pour lui offrir maintenant. Et je crois pour lui offrir réussi.
Vous dites que c'est une femme qui paraît très méchante, mais qui pleure la nuit.
J'ai toujours eu cette impression. Après des journées de travail où nous étions heurtés pas mal, je la quittais. Alors elle avait son visage de grande dureté. Et dessous, je lisais dans les yeux qu'il y avait beaucoup de tristesse d'avoir été si dur. Et je l'embrassais tendrement en lui disant « Bon, Marguerite, tu as été méchante, mais à demain. » Puis un jour, il n'y a pas eu de demain. Je n'ai pas eu envie de revenir.
We are lovers. Every day we go back to the bachelor's room. We can't stop loving.
He does nothing, only love.
Is that what you want?
Yes.
Jean-Jacques Haneau n'a jamais su si Marguerite Duras avait vu son film, mais une chose est sûre, se sentant dépossédée de son œuvre, bien qu'ayant touché de solides droits d'adaptation, elle publiera en 1991, quelques mois avant la sortie du long-métrage, « L'amant de la Chine du Nord », sorte de réécriture de l'amant dans un style plus cinématographique et destiné à une éventuelle seconde adaptation.
Radio Caroline. Radio Caroline avec Olivier Monsens.
Si L'Amant a offert en 1984 son premier prix Goncourt à Marguerite Duras, c'est aussi le premier décroché par les éditions de Minuit, chez qui est revenu Duras en 1977 après y avoir publié Moderato Cantabile 20 ans plus tôt, puis être passé chez Gallimard. Des éditions de Minuit fondées en 1941 sur des valeurs de résistance et qui ne cesseront au fil des décennies d'être animées de combats et d'engagements politiques, sociétaux et artistiques qui participeront à l'émergence du nouveau roman et lanceront des auteurs comme Samuel Beckett, Alain Robbe-Grillet ou le Belge Jean-Philippe Toussaint. Tout commence donc en 1941, quand le dessinateur Jean Brulaire, qui sera connu en tant qu'écrivain sous le pseudonyme de Vercors, accompagné du romancier journaliste et éditeur de revue Pierre Delescure, crée clandestinement une maison d'édition en plein Paris occupé et au mépris du danger. Une naissance que concrétise en février 1942, et après 8 semaines de fabrication, la parution d'un ouvrage de 96 pages, écrit par Brulaire et intitulé Le silence de la mer. Ce qui a motivé ces deux hommes, c'est la publication en 1940 par les autorités d'occupation de la liste Bernard, pointant une série d'ouvrages indésirables, des livres signés André Malraux, Louis Aragon, Jacques de Cour et Elsa Triolet. Liste à laquelle s'ajoute peu après une seconde, la liste Otto. Une censure intolérable face à laquelle il faut réagir. C'est ainsi qu'en 1941, on confie à Pierre Delescure la responsabilité d'un numéro de La Pensée Libre, première publication clandestine qui se veut le manifeste des écrivains de la zone occupée et pour laquelle Lescure propose à Brulaire d'écrire un texte. Alors qu'il réside à Villiers-sur-Morin, une quarantaine de kilomètres de Paris, Brulaire s'inspire d'un officier allemand qu'il croise chaque jour en allant travailler à la menuiserie et aux salutations courtoises de ce dernier, auxquelles Brulaire ne répond jamais. Il ne lui faudra que quelques semaines pour écrire ce silence de la mer, récit dans lequel un vieil oncle et sa nièce opposent leur mutisme à un officier allemand, pourtant aimable et cultivé, qui s'est installé chez eux. Le texte doit sortir dans le numéro 3 de La Pensée Libre, qui ne verra jamais le jour. La Gestapo ayant fait une descente dans l'imprimerie et arrêté imprimeur, typographe et saisi tous les manuscrits. Tous sauf celui de Brulaire, qui par chance n'est pas encore arrivé. Bien décidés à le publier, Brulaire et Lescure partiront à la recherche d'un autre imprimeur, fiable bien sûr, et qui est lui aussi confiance en eux en ces temps troubles. C'est ainsi qu'entre décembre 1941 et janvier 1942 seront imprimés 350 exemplaires du Silence de la mer sous le pseudonyme de Vercors, et dont les feuillets seront brochés dans l'appartement d'une amie située près du Trocadéro à Paris. Et ce sont des femmes qui transporteront à vélo les exemplaires du livre dans les rues de Paris, elles aussi au péril de leur vie. L'un d'eux parviendra même à Londres où le général de Gaulle ordonnera sa réédition pour une plus large diffusion. Outre la version intégrale en livre, Le silence de la mer sera publié à Londres en feuilleton dans le journal des Français en exil, La Marseillaise, mais aussi en Algérie, au Sénégal, en Australie, en Suisse, à Québec, à Beyrouth et même à New York sous le titre Les silences, le traducteur, ne pouvant consulter l'original ni l'auteur. Brulaire, Vercors donc, le trouvera même dans son jardin sous forme de minuscules brochures en papier bible parachutées par les avions de la RAF. Un exemplaire tombera aussi entre les mains de Jean-Pierre Grimbach, alias Jean-Pierre Melville, qu'il adaptera quelques années plus tard pour le cinéma.
Ce livre qui fit le tour du monde fut imprimé pour la première fois au prix de multiples dangers, au nez et à la barbe de l'occupant dans une minuscule imprimerie d'avis de décès. Les résistants le diffusèrent au péril de leur vie. Et pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce livre n'était ni une œuvre de combat, ni une œuvre de haine. C'est là, dans la solitude de cette maison, que se déroula cette bouleversante histoire et c'est sur ces lieux même que vient d'être réalisé le film qui fait revivre les personnages désormais célèbres de cette œuvre noble et généreuse. Ce film, qui fut réalisé dans des conditions tout à fait exceptionnelles, car pour la première fois dans l'histoire du cinéma, sa présentation au public fut subordonnée à l'acceptation d'un jury de 22 personnalités désignées par l'auteur du livre, ce film, qui n'est ni un film de guerre, ni un film de résistance, et qui par l'originalité de sa conception ne peut être comparé à aucun autre, ce film dont, contrairement à l'usage, nous ne vous présenterons aujourd'hui aucun fragment, car aucune image séparée ne saurait traduire toute l'émotion qui s'en dégage, c'est
Le silence de la mer.
Pourquoi aimais-je tant cette pièce? Elle n'est pas si belle. Oh, pardonnez-moi, je veux dire, ce n'est pas une pièce de musée. Vos meubles n'en diraient pas « voici des merveilles », non. Mais cette pièce a une âme. Toute cette maison a une âme.
Balzac, Baudelaire, Corneille, Descartes, Fénelon, Gautier, Hugo.
Quel appel! Et je n'en suis qu'à la lettre H. Ni Molière, ni Racine, ni Rabelais. Ni Pascal, ni Stendhal, ni Voltaire, ni Montaigne, ni tous les autres. Les Anglais, on pense aussitôt Shakespeare. Les Italiens, Dante. L'Espagne, Cervantes. Et nous, tout de suite, Goethe. Après, il faut chercher. Mais si on dit « et la France », alors qui surgit à l'instant? Molière, Racine, Hugo, Voltaire, Rabelais ou quel autre? Ils se pressent, ils sont comme une foule à l'entrée d'un théâtre, on ne sait pas qui fait rentrer d'abord. Mais pour la musique alors, c'est chez nous. Bach, Handel, Beethoven, Wagner, Mozart. Quel nom vient le premier? Et nous nous sommes fait la guerre.
Ce n'est qu'en août 1944 que la véritable identité de l'auteur de ce livre, Le silence de la mer, de ce Vercors, sera révélée, ce dernier intégrant du même coup le milieu littéraire français. Mais entre-temps, les éditions de Minuit auront poursuivi leur travail clandestin durant la fin de la guerre et grâce à une poignée d'imprimeurs courageux, une vingtaine de plaquettes auront été signées sous pseudonyme par quelques grands écrivains, comme l'explique en 1946, une émission de ce qu'on appelait encore la radiodiffusion française.
Des jeunes maisons d'édition parisiennes, la plupart, sont nées pendant la guerre, soit en Afrique, comme Charlot, soit en zone sud, comme Lafont et Segers. Mais le plus beau tour de force des intellectuels au service de la pensée française, malgré la guerre et à cause d'elle, est sans doute la création en plein Paris, sous le joug allemand, d'une maison d'édition clandestine, les éditions du Minuit. 25 ouvrages pouvaient ainsi paraître, en se moquant de la censure allemande, parmi lesquels le Cahier noir de Mauriac, les anthologies des Loirs et de l'Escure, Le Temps mort d'Aveline, le Musée Grévin d'Aragon, Le silence de la mer et La marche à l'étoile de Vercors. Nous allons lui demander quelles sont les raisons qui l'ont amené, après la libération, à continuer au grand jour des éditions dont le but était de permettre à des écrivains libres de s'exprimer, ce qu'aujourd'hui ils peuvent faire n'importe où.
Eh bien, nous nous trouvons devant un problème qui n'est tout de même pas sans analogie avec celui qui était le mien lorsque j'ai fondé les éditions de Minuit en 1941. Je les ai fondées, vous le savez, en publiant Le silence de la mer. Il s'agissait ensuite de savoir si je serais suivi, si j'avais vu juste, si d'autres écrivains n'attendaient que l'existence d'une maison clandestine pour y écrire à leur tour. Les mois qui ont suivi ont été des mois d'attente un peu angoissée. Ce n'est en effet qu'un an plus tard que les premiers manuscrits me sont parvenus. Après quoi, elles se sont précipitées, et vous savez qu'à la Libération, nous avons publié 25 volumes. Aujourd'hui, si les éditions de Minuit poursuivent leur carrière, c'est que leur mission, à mes yeux, n'est pas terminée. Elles ont, de 1940 à 44, défendu l'homme contre l'oppression, contre la tyrannie. Elles ont aujourd'hui à sauvegarder le destin de l'individu au sein d'une société qui, quelle que soit la forme ou les formes politiques, qui triompheront dans le monde, sera de plus en plus d'essence, comment dirais-je, collective. Notre morale, ou mieux encore notre éthique, est encore celle de l'individu entièrement libre, si je puis dire.
C'est ainsi que les éditions de Minuit publieront, entre autres, Premier combat de Jean Moulin en 1947, fabuleux témoignage réédité récemment et que je vous recommande, Un camp très ordinaire de Micheline Morel en 1957 ou La nuit d'Elie Wiesel l'année suivante. En sortant de la clandestinité à la libération, les éditions de Minuit pourront enfin s'épanouir au grand jour. Mais en même temps, elles seront confrontées aux règles du système économique et assez rapidement à de gros problèmes financiers. Car si le catalogue s'avère de qualité, les tirages restent modestes et les rentrées faibles. C'est ainsi qu'après plusieurs bilans déficitaires, Vercors abandonnera en 1948 la maison qu'il avait créée, confiant sa direction à un certain Jérôme Lindon, 23 ans, qui en était depuis quelques mois le chef de fabrication et qui rachètera la société, avant bientôt de réussir un joli coup littéraire. Car en novembre 1950, deux ans plus tard donc, Susan Beckett, épouse de Samuel, un auteur irlandais résident en France depuis 1938 et écrivant en français, viendra soumettre au jeune éditeur trois manuscrits de son mari dont aucune autre maison n'a voulu. Molloy, Malhonnemeur et L'Innommable, lesquels seront publiés par les éditions de Minuit entre 1951 et 1953, tout comme sera publiée une pièce de théâtre qui va révolutionner le genre En attendant Godot, traduite par la suite dans 50 langues et jouée dans le monde entier. Elle sera suivie, cette pièce, de Fin de partie en 1957, puis de Happy Days, cette dernière écrite en anglais et traduite par Beckett sous le titre Oh les beaux jours en 1963. Beckett, qui en 1969 se verra attribuer le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre. Et ce 23 octobre 1969, la télévision se trouve précisément dans le bureau de Jérôme Lindon, patron des éditions de Minuit.
Jérôme Lindon, dans quelques secondes peut-être, le téléphone sonnera et à l'appareil, il y aura Samuel Beckett. Samuel Beckett qui ne sait pas encore qu'il a le prix Nobel. Vous qui êtes son ami, pouvez-vous nous parler de lui, lui qui n'aimait pas justement parler de lui-même?
Je ne saurais pas très bien parler de lui-même, moi non plus. Parce que justement, une des principales caractéristiques et des principales qualités de Samuel Beckett, c'est sa discrétion et sa modestie. Il en a énormément d'autres, des qualités, il les a, à mon avis, toutes, aussi bien sur le plan du cœur que sur le plan de l'intelligence. Et c'est un très, très grand écrivain.
Il est plutôt connu en France pour un homme de théâtre qu'un romancier.
C'est vrai, mais c'est sans doute à tort. Personnellement, j'ai connu Beckett d'abord comme un romancier. C'est les premiers textes de lui que j'ai lus. C'était des romans, c'était Molloy, exactement, en 1951. Et c'est probablement parce que c'était le premier, celui qui m'a le plus touché. J'aime énormément le théâtre de Samuel Beckett, mais je regrette en effet cette disparité qui existe entre le succès de certaines pièces comme En attendant Godot et le relatif échec commercial de certains de ses romans qui sont de très très grandes choses et qui sont certainement parmi celles qui ont le plus contribué à cette consécration que représente pour lui aujourd'hui le prix Nobel.
Si Samuel Beckett restera fidèle aux éditions de Minuit jusqu'à sa mort en 1989, il est d'autres écrivains qui resteront associés à cette maison, tel un jeune ingénieur agronome nommé Alain Robbe-Grillet, qui publiera Les Gommes en 1953, puis Le Voyeur. Robbe-Grillet qui, accédant dès 1954 au comité de lecture des éditions de Minuit, contribuera à révéler un groupe d'écrivains bientôt connus sous la bannière du nouveau roman. À commencer par Michel Butor, dont le livre La Modification recevra le prix Renaudot en 57. Une année au cours de laquelle est réédité un autre livre qui deviendra majeur, Tropisme, de Nathalie Sarraute. D'abord publié en février 1939 par une autre maison d'édition, bien sûr, salué à l'époque par Jean-Paul Sartre et Max Jacob, mais que la presse traita avec indifférence, si ce n'est quelques journaux dont La Gazette de Liège, dans laquelle Victor Moormans écrira en 1939, donc 17 ans avant sa consécration. Ce petit livre qu'elle vient de publier n'offre pas uniquement l'intérêt d'une curiosité littéraire, il peut être considéré comme l'échantillon avant-coureur d'une œuvre dont l'acuité et la profondeur nous surprendront peut-être un jour. Bien vu, Victor. En 1957, année de la réédition de Tropisme, paraît La Jalousie, quatrième roman d'Alain Robbe-Grillet, qui sera traduit en 30 langues. Et c'est une série d'articles du Monde justement consacrés à cette jalousie autant qu'à Tropisme qui emploiera pour la première fois, pour les désigner, l'expression de nouveau roman. au fait des révolutions littéraires. Les éditions de Minuit ne quitteront pas pour autant l'engagement politique. Et durant la guerre d'Algérie, celles-ci ne manqueront pas de faire paraître plusieurs livres très critiques, des charges même contre ce conflit et ceux qui l'organisent. Plus tard, c'est la revue des études palestiniennes menée par Samir Kassir et Farouk Mardam Bey que Jérôme Lindon, patron de la maison, fera paraître dès 1982. Mais on ne pourrait boucler cette histoire des éditions de Minuit sans rappeler qu'en 1984, l'année du Goncourt de Marguerite Duras avec l'amant, c'est de ce même Jérôme Lindon qu'un jeune auteur belge installé en Corse et qui n'a pas le téléphone recevra un télégramme lui demandant de le rappeler. Il s'appelle Jean-Philippe Toussaint, il a 27 ans et son manuscrit s'appelle « La salle de bain ». Dans un texte paru peu après la disparition de Jérôme Lindon, ce fabuleux éditeur en 2001, Jean-Philippe Toussaint se souviendra de cet événement, de ce moment où il a su qu'il allait être publié par les éditions de Minuit. Je le cite. « Je n'ai parlé à Jérôme Lindon que le lendemain de la réception du télégramme, donc, depuis la petite cabine téléphonique de la poste d'Herbalunga. Je me souviens parfaitement des premiers mots de cette conversation, moi recroquevillé dans la cabine vitrée à l'intérieur de la poste, la tête baissée, une main sur le récepteur pour ne pas perdre une miette, et lui me demandant d'entrer si j'avais déjà signé un contrat avec un éditeur. » Non, le manuscrit de la salle de bain avait été refusé par toutes les maisons d'édition à qui je l'avais proposé et il était resté en souffrance aux éditions de Minuit dans le bureau d'Alain Robbe-Grillet qui enseignait alors aux États-Unis, Jérôme Lindon ne l'ayant découvert que par hasard un jour qu'il vaquait dans l'immeuble. Finalement, nous nous sommes rencontrés pour la première fois un après-midi de décembre 1984 à Paris. Je me souviens très bien du premier regard que Jérôme Lindon m'a adressé ce jour-là. Incroyablement droit, j'ai senti un regard infaillible dès le premier coup d'œil, un regard qui évalue, qui jauge et qui juge. Jean-Philippe Toussaint, en 2001, alors que Jérôme Lindon vient de disparaître. Et Jean-Philippe Toussaint, à l'aube d'une belle carrière d'écrivain grâce à ses éditions de Minuit. Eh bien, notre voyage se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à le partager, à le faire savoir, à l'étoiler. Belle journée ou bonne nuit.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.